Quand on parle de discrimination homme-femme, on pense aux discriminations professionnelles, le salaire par exemple, ou à la répartition des tâches domestiques, la vaisselle, s'occuper des enfants, mais on n'imagine pas une discrimination au niveau de la santé. Dans un documentaire d'Arte, appelé « La santé des femmes, de l'ignorance à la reconnaissance », on apprend qu'une femme sur trois meurt d'une maladie cardiovasculaire. En France et en Allemagne, c'est la première cause de mortalité prématurée chez les femmes. On apprend que dans l'évolution de la médecine, les femmes ont longtemps été considérées comme un modèle réduit des hommes. En attendant d'acquérir suffisamment de données, les bases de données utilisées pour entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle sont nécessairement biaisées. Aujourd'hui, nous allons évoquer les biais de représentation de la santé des femmes et comment utiliser les IA pour limiter l'impact de ces biais dans la médecine avec le professeur Olivier Humbert. Et pourquoi pas, comment utiliser l'IA pour identifier des biais cachés? À l'issue de cet épisode, pensez à nous envoyer votre avis sur www.horizon-ia.com/contact. Nous serons ravis de le lire et de vous répondre. J'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec un de mes collègues, Olivier Humbert, professeur en médecine nucléaire, qui a intégré l'intelligence artificielle dans sa pratique. Il est également à l'initiative d'un diplôme universitaire d'IA en santé pour les médecins. Bonjour Olivier.
Bonjour Stéphanie.
Merci beaucoup d'avoir accepté de partager tes connaissances de l'IA en santé dans cet épisode et plus particulièrement donc des biais de représentation des femmes dans la médecine.
Et merci de m'avoir invité.
Déjà, explique-nous ton parcours en fait. Comment es-tu devenu médecin nucléaire et aussi comment tu t'es orienté vers l'IA?
Alors donc oui, en effet, je suis médecin nucléaire, donc tout ce qui est l'utilisation de la radioactivité pour traiter ou faire des images des patients. C'est une spécialité qui reste assez technique, donc cet aspect physique-technologie a fait que je me suis orienté vers ce choix de spécialité qui utilise la radioactivité, donc une petite spécialité qui n'est pas forcément très connue, mais qu'on utilise beaucoup en fait en cancérologie. Et ce qui m'a amené à l'IA, et ça c'est l'autre mot-clé, c'est que dans ma spécialité, on utilise beaucoup l'imagerie médicale, et l'image est une donnée où l'IA est particulièrement performante pour analyser ces données de manière automatique. Donc l'image est aussi l'autre point qui m'a emmené à l'IA.
Très bien. Alors après, au niveau de ton parcours, en médecine en général, en biologie, on s'imagine qu'il y a plus de femmes que d'hommes, alors que dans le numérique, c'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui, j'imagine que tu as des équipes à la fois orientées data science et aussi dans le domaine médical. Combien tu as de femmes dans ton entourage?
Eh bien, ça évolue. Alors nous, moi, dans mon domaine médical, on a une spécialité assez justement technique. Initialement, c'est vrai qu'il y avait quand même plus d'hommes. Aujourd'hui, c'est complètement équilibré. On est en médecine nucléaire, dans mes étudiants, dans les médecins, on est un bel exemple avec des équipes très mixtes. Au niveau des étudiants doctorants, là aussi, alors j'ai pas les statistiques, mais mon sentiment c'est quand même, et je recevais initialement un peu plus de CV d'étudiants garçons, mais c'est de moins en moins vrai. Je trouve qu'aujourd'hui, maintenant, je reçois beaucoup, de plus en plus en tout cas, de CV de femmes qui ont fait tout le parcours ingénieur et qui souhaitent faire de l'IA en santé. Donc, c'est vrai que ce ressenti, c'est que les femmes sont là aussi maintenant, même sur ces spécialités plus mathématiques, physiques. Initialement, on voyait plus des hommes. Non, aujourd'hui, que ce soit sur le côté médecine ou data science, pour moi, ça me semble de plus en plus équilibré. En tout cas, on fait aussi attention à cet équilibre aussi quand on reçoit nos candidatures.
Tu fais bien de le souligner. C'est que souvent, on parle de la discrimination au recrutement, mais on ne parle pas du fait que les femmes n'osent parfois pas candidater à certains postes.
Oui, qu'elles pourraient se limiter. Voilà. Moi, je vois dans les personnes que j'ai recrutées, là, j'avais un doctorant, une post-doctorante, un homme, une femme. Donc voilà, c'était assez équilibré.
OK. Si tu pouvais résumer ton quotidien, finalement, entre ton activité dans la médecine et ton activité en IA, comment ça se répartit? Est-ce que tu es au contact des patients?
Oui, mon quotidien est réparti entre mes activités de clinique, de recherche, de l'enseignement. Donc, mon quotidien, je cours beaucoup entre la fac de médecine, l'hôpital. Les quotidiens sont bien chargés, mais sont aussi passionnants. Moi, je me centre entre la Fessagne. prend en charge des patients dans des moments assez difficiles. Si on demande du diagnostic de leur cancer, souvent on fait les images, donc on les voit avant ou après l'examen, avec des moments assez courts, mais qui sont très importants. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, l'empathie est très importante, puisque ça peut être des annonces. Alors on espère souvent des annonces de choses, voilà, de bonnes nouvelles, mais aussi des fois il y a des nouvelles moins bonnes. Et donc il faut savoir gérer cette annonce difficile et avoir de l'empathie avec le patient. Donc ça, c'est ma partie médicale, très cancérologique. Et voilà, il y a après la partie recherche ou enseignement à la faculté de médecine.
Très bien. Maintenant, je te propose qu'on aborde le cœur du sujet, l'IA et les biais de représentation en médecine. Commençons par les crises cardiaques. J'en parle parce que j'en ai entendu parler récemment dans un documentaire d'Arte dont j'ai parlé en introduction, mais aussi parce que j'ai eu l'occasion d'assister à un de tes cours dans le DU d'IA en santé, où tu parlais justement de cette découverte assez récente. Il n'y a pas les mêmes symptômes de la crise cardiaque chez l'homme par rapport à la femme. Alors, dans ma représentation très naïve, détecter une crise cardiaque, ça semble se faire en quelques secondes, c'est-à-dire un humain voit un autre humain en souffrance. Comment est-ce que l'IA peut servir à détecter cette crise cardiaque? Quelles sont les données utilisées?
Donc oui, alors le diagnostic, évidemment, on voit vite qu'on est dans une situation d'urgence. Après, la cause de l'urgence, elle n'est pas toujours si facile que ça à détecter, ne serait-ce parce que l'interrogatoire peut être difficile au moment d'une crise cardiaque. L'IA peut venir analyser en fait l'aide au médecin qui lui va poser les questions, faire un examen clinique, qui ça reste quand même vraiment la prérogative du médecin, son expérience. Mais l'IA en produit des données numériques hein, maintenant de plus en plus. Donc l'IA va pouvoir faire une analyse automatique de ces données numériques qui viennent en annexe. Par exemple, le diagnostic est souvent posé aussi sur l'électrocardiogramme pour détecter les symptômes de l'infarctus, ce qui peut être très utile à l'urgentiste qui est, lui, concentré sur l'interrogatoire, l'examen clinique, les premiers gestes d'urgence. Et voilà, il n'aura pas moins de temps à passer à l'analyse de l'électrocardiogramme avec aujourd'hui des résultats très robustes des IA. Donc, analyser ces données numériques de temps réel peut être vraiment une des utilités de l'IA pour faire gagner du temps en fait, sur le diagnostic et de la précision aussi.
Et aujourd'hui, qu'il y a tant de dispositifs, les smartwatches, le téléphone, qui peut capter un certain nombre de signes vitaux, est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir ce genre de dispositif à mettre?
Oui, exactement. On pourrait aussi, il y a quand même beaucoup de signes vitaux qui peuvent être détectés au niveau de la tension, des fréquences cardiaques. On pourrait même imaginer encore des signes plus subtils. Bon, après, c'est toujours la question de la bonne utilisation du smartphone et le risque de ne pas faire plein de faux positifs qui pourraient vite finalement faire que le système sature en l'engorgeant, en faisant des faux positifs au détriment des faits positifs. Donc oui, dans le futur, je pense que c'est des choses qui vont se développer encore une fois, mais là, il faudra vraiment une évaluation de l'intérêt clinique, de la fiabilité très précise. On pourrait aussi imaginer des IA prédictives qui utilisent de l'analyse des différents facteurs de risque. C'est souvent assez subtil. Encore une fois, il peut y avoir des différences entre les femmes et les hommes, puisque les facteurs de risque ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, le taux d'hormones, d'œstrogènes peut être un facteur de risque au niveau de l'infarctus chez la femme. C'est des choses qui ne sont pas forcément bien maîtrisées par tous les médecins généralistes. On pourrait avoir des questionnaires qui sont remplis avec derrière une IA qui analyse les réponses aux questionnaires et fait des prédictions beaucoup plus objectives peut-être. Ça vient en appoint du médecin qui derrière valide, mais ça pourrait être intéressant pour les facteurs de risque et la prédiction des IA assez objectives et vraiment customisées en fait pour les facteurs de risque des femmes aussi. Parce que, encore une fois, on veut éviter d'arriver jusqu'à l'infarctus. La médecine, la meilleure médecine, c'est celle de prévention. Et je pense que l'IA, là aussi, a un vrai rôle sur la prédiction et la prévention.
Au niveau de la prévention, comment ça pourrait marcher? Parce que là, donc, c'est une chose d'appeler en urgence le médecin, mais comme tu disais, la prévention est quand même un élément
sur l'IA
important.
Et la prévention, on est aujourd'hui dans une situation compliquée avec des déserts médicaux, des accès difficiles. L'IA en prévention, elle est là parce qu'elle peut venir diffuser facilement aux patients qu'ils souhaitent via des applications en smartphone. Donc, elle est vraiment diffusable dans la poche et dans la main du patient. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois aussi, les patients n'osent pas forcément aller voir leur médecin, parler des craintes qu'ils peuvent avoir parce qu'ils ont des antécédents familiaux d'infarctus, mais ils disent, bon, mon médecin a autre chose à faire, ou alors un peu de négligence, du temps qu'ils ne prennent pas. Aujourd'hui, une IA de prévention, voilà, ça peut être facile à faire, assez rapide, prendre 5 minutes sur une petite application. Et si elle est bien calibrée, si elle permet vraiment encore une fois de bien identifier les patients à risque, réorienter ces patients à risque en disant là vraiment, vous avez un nombre d'antécédents qui font que vous devez avoir une consultation de prévention vers votre médecin généraliste et vers un cardiologue, si vraiment tous les symptômes sont là. Donc, une IA pour convaincre en fait les patients qu'ils ont des facteurs de risque, que ce n'est pas forcément superflu et c'est même nécessaire d'aller faire le point pour corriger ces facteurs de risque avant qu'il soit trop tard. Je pense que ce pourrait être une bonne application.
Effectivement, ça rejoint un peu ce que j'ai entendu dans le documentaire, à savoir que les femmes avaient tendance à minimiser leurs symptômes, de la même manière qu'on parlait tout à l'heure au niveau du recrutement, que les femmes ne se jugeaient pas forcément à la hauteur d'une offre d'emploi. Par moment, elles imaginent que leurs
Oui.
symptômes ne peuvent pas être aussi gravissimes. Que ceux d'un infarctus du myocarde. Dans ce cas, le fait d'avoir un formulaire qui objectivement pose des questions factuelles
Voilà.
permettrait à ces femmes justement de prendre en
Son...
considération que leurs symptômes sont
Tout à fait,
possiblement
cette
beaucoup plus graves
minimisation,
que ce qu'elles
enfin, ce
s'imaginent.
frein à aller voir le médecin ou après cette minimisation, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose, un trait qu'on peut retrouver chez des femmes qui ne vont pas forcément tout dire tout de suite à leur médecin par pudeur, par. Et l'application, au moins, je pense qu'elles vont pouvoir dire les choses de manière plus objective. Et puis, si elles disent, bon, là, j'ai dit que j'avais une petite douleur, qu'elle était légère, mais peut-être qu'elle est modérée, donc je retente l'application en augmentant un peu mon curseur et en disant la douleur modérée, si je la minimise pas, et voir ce que ça change en termes de risque. Ça leur permet de prendre conscience que peut-être si elles minimisent trop, elles ont un risque minime, mais que d'avoir changé un peu les questions, elles arrivent sur un risque significatif. Et donc, que cette minimisation n'est pas forcément une bonne chose. Donc, oui, je pense qu'il y a toujours une certaine pudeur dans les consultations avec les médecins et que ça permet peut-être d'être plus objectif, de dire plus les vraies choses sur un premier questionnaire qui vient un peu objectiver tout ça.
Tout à l'heure, tu parlais d'engorgement possible du SAMU. Justement, est-ce que les symptômes de l'infarctus du myocarde, de la crise cardiaque, comme on l'appelle, ces symptômes, est-ce qu'ils sont partagés avec d'autres maladies qui rendent
Oui,
le
notamment
diagnostic donc plus
particulièrement
difficile?
chez la femme. Hein, voilà, on a vu les signes sont moins spécifiques, on va dire, chez la femme, avec typiquement des douleurs qui irradient pas forcément dans le bras gauche et qui sont peuvent être plutôt digestives, des troubles digestifs, de la fatigue. Donc, on peut vite poser un mauvais diagnostic, du type voilà, c'est une gastro-entérite, c'est la fatigue. Si voilà, c'est de l'anxiété, de la dépression, des choses, voilà, comme des mots qu'on va facilement mettre quand on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc oui, il peut y avoir des erreurs diagnostiques du fait du caractère moins spécifique des symptômes de la femme.
Maintenant, si on s'attache à l'impact que ces données biaisées vont avoir sur l'intelligence artificielle, on peut déjà définir un concept qui est connu, c'est le garbage in, garbage out, qui veut dire que bon, bah, si on a des données biaisées en entrée, le résultat sera forcément biaisé. Comment est-ce qu'on pourrait corriger a posteriori les données qui sont biaisées? Est-ce qu'on doit mettre un médecin qui, connaissant ces biais, va les corriger à la main? Est-ce qu'on a des algorithmes qui pourraient éventuellement
Oui, alors
le
pour les
faire?
corriger, donc déjà, c'est vrai qu'il faut bah, identifier ces biais. Bon, un biais, c'est quand il y a une catégorie de la population qui est sous-représentée. Là, dans le cas, si voilà, il y a une sous-représentation des femmes par rapport aux hommes, il faut retravailler sur la base de données pour la rééquilibrer. Donc, soit je sous-échantillonne le nombre
D'hommes.
de patients hommes et je réinclus, je récupère des données supplémentaires chez les femmes pour les rééquilibrer. Donc, si on a détecté le biais, on peut le corriger. Mais encore faut-il détecter, et ça, c'est vrai que c'est assez difficile et il faut vraiment les traquer. Voilà. Mais ensuite, c'est vrai que c'est la conception de base de données. Donc, si on a suffisamment de patients, on peut rééquilibrer pour qu'il n'y ait pas des classes trop
Très
minoritaires.
bien. Alors, mais admettons, on a
Ouais.
un certain nombre de données, mais on ne s'est pas encore aperçu de ce problème de biais. Est-ce que l'IA
Ouais.
pourrait servir de révélateur de biais? Je parle de ça parce que dans l'épisode précédent, j'ai
Oui.
parlé avec Daphné Marna, CEO de la société Unbias, et pour elle, justement, l'IA pourrait être un
Oui, c'est ça.
révélateur
Là,
de biais.
c'est vrai que le premier cas que j'ai envisagé, c'est celui où il y a une sous-représentativité. Donc, c'est vrai que celui-là, il se détecte assez vite parce que voilà, on voit que j'ai une cohorte avec 20% de femmes, 80% d'hommes. J'ai un problème et je vais avoir un algorithme qui sera biaisé en défaveur des femmes. Ensuite, il y a le cas où les femmes sont en nombre sont bien représentées, mais elles peuvent avoir des caractéristiques différentes du reste de l'application, donc des hommes, et que l'algorithme ne va pas forcément en tenir compte. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant, puisque l'IA, avec ce qu'on appelle l'IA non supervisée, va pouvoir automatiquement identifier donc, des patients qui ont des profils un peu différents, des profils différents même du reste de la population. Par exemple, qui pourraient être, je sais pas, des femmes plus âgées qui ont un profil de données cliniques, de données biologiques, qui sont un peu différents, et donc avec un risque qu'il y ait un biais sur ce profil, cette catégorie qui est un peu différente du reste de la population. Donc c'est vrai que l'IA non supervisée peut nous permettre de voir qu'il y a des différences dans la distribution des données cliniques et donc des spécificités à un certain groupe qui peut être, alors évidemment, là, c'est, on parle des femmes, mais ça peut être des personnes plus jeunes, plus âgées ou d'autres caractéristiques. Donc oui, l'IA peut aider aussi sur l'analyse de données à voir cela.
Alors, je pense que c'est aussi un peu le moment où on pourrait faire un appel à nos auditrices en particulier pour rentrer dans des cohortes d'études cliniques, parce que finalement, c'est dans ces études-là qu'on va pouvoir récupérer le maximum d'informations, le maximum de données. Et finalement, comment ça se passe, la sélection de la population pour des études cliniques? Justement, si ce biais est mal identifié, on ne sait pas exactement quelle est l'étendue de la population sujette à ce genre de maladie. Comment est-ce qu'on va faire pour justement les
dans
cibler?
Les essais cliniques, c'est vrai que c'est des populations souvent très contrôlées, très spécifiques, qu'on propose à certains patients selon des critères d'inclusion, qui presque volontairement, des fois, peuvent induire des biais, puisqu'on va cibler une seule catégorie de la patient. Et par exemple, on élimine tous les mineurs, par exemple, parce qu'on considère que la recherche clinique chez les mineurs, c'est très spécifique, et donc on ne veut pas les inclure parce qu'on ne veut pas les exposer potentiellement à une recherche où on ne connaît pas tous les aboutissants. Donc, il y a les personnes vulnérables aussi qu'on va volontairement exclure. Donc, bon, j'ai rarement vu des études cliniques qui excluaient volontairement les femmes, mais enfin, il y a des critères de sélection qui sont assez stricts et qui peuvent créer du biais. Je pense que vraiment, la solution pour moi, c'est d'avoir ces données de vie réelle dans les hôpitaux, c'est-à-dire de créer des bases de données qui, en fait, sont rétrospectives. On n'inclut pas le patient, mais on récupère a posteriori les données de tous les patients, voilà, tous les patients
tout
qui
ce
sont
qui a
venus,
été généré.
Sans exclusion, sans exception. Et donc, ce qui permet en fait d'avoir la meilleure représentativité de la population générale. Encore faut-il que ces données rétrospectives, elles aient une bonne qualité. Là, il y a un enjeu de qualité parce que c'est dans le passé, donc on maîtrise moins les données, le moment du recueil de la donnée. Mais c'est quand même la solution, pour moi, pour avoir, dans un hôpital, tous les patients, et on ne le fait pas que sur un hôpital, parce que les patients qui viennent dans mon hôpital à Nice sont peut-être un peu différents des patients qui vont dans l'hôpital à l'Institut Curie à Paris-Centre ou de ceux qui sont traités au CHU de Lille. Donc, il faut des études rétrospectives multicentriques pour avoir en fait un très bon panel de la population, très représentatif, ce qui en fait ne permettent très rarement les études cliniques prospectives.
Alors, j'aurais une question impertinente. Quand on n'a pas de données d'une certaine population, ou en tout cas qu'elles sont assez minoritaires, à l'heure de ChatGPT et de l'IA générative, est-ce que ce ne serait pas possible de créer
Oui,
des profils de patients
on en discute
artificiels?
des fois avec les mathématiciens, parce que pour les mathématiciens, je te génère de la donnée, je génère un faux patient à partir d'analyse de vrais patients, et je crée des cohortes de faux patients qui me permettront d'entraîner mes modèles. Là, il y a vraiment c'est vrai qu'il y a une vision très différente. Pour moi, chaque patient, notamment quand je travaille en cancérologie, chaque patient est différent avec son propre cancer, ses propres spécificités. Il y a un sens biologique très fort dans l'image. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur l'image, c'est le résultat de processus biologiques extrêmement complexes. Et que j'ai très peur que de générer, en fait, on génère un peu, entre guillemets, n'importe quoi. De la donnée qui n'existe pas vraiment, des choses aberrantes. Et on a une telle subtilité dans la médecine, une telle individualité, une telle particularité de chaque patient que je suis très prudent sur la génération de fausses données. Alors pourquoi pas pour des preuves de concept? des choses comme ça. Mais quand on conçoit l'algorithme final qui va traiter les patients, attention, il peut y avoir peut-être des aberrations dans les données générées. On ne génère pas juste une image publicitaire. Enfin voilà, le corps humain est quand même quelque chose de très compliqué. Exactement,
Tout à fait.
il faut être très
Grimpe
prudent quand on
derrière.
manipule cette image. Alors, la data augmentation, l'augmentation de données, ça reste quelque chose de pertinent. Moi, j'y crois. Augmenter des données, on travaille sur le PET scanner, à partir d'une seule image TEP, rajouter un peu de flou, un peu voilà, de bruit dans l'image pour recréer le PET scan tel qu'il aurait pu être fait dans un autre hôpital sur une autre machine. Ça, je trouve ça assez pertinent parce que on recrée de la diversité de qualité d'image qu'on retrouve dans la vraie vie. Mais quand on crée purement des nouveaux patients avec une nouvelle maladie, entre guillemets, qu'on fait donc la génération de données, c'est là où je serais beaucoup plus prudent. Donc oui, je pense qu'on peut augmenter les données, on peut, mais il faut que ça reste pertinent, réaliste, voilà, vraisemblable, et pas faire des choses complètement improbables.
Vraisemblable. Je te propose de passer à un autre cas applicatif, l'autisme. Contrairement à la crise cardiaque, où on connaît quand même un certain nombre de symptômes, des données tangibles, des signaux, un électrocardiogramme, l'autisme, en particulier l'autisme haut niveau, est plus difficilement décelable. Si je reprends ma phrase de tout à l'heure pour la crise cardiaque, un humain voit un autre humain, mais la situation de souffrance n'est pas aussi visible. En 2015, en particulier, une étude montre que les femmes dissimulent mieux leurs difficultés, brouillant ainsi les pistes. Elles sont donc sous-diagnostiquées, ce qui biaise encore les données. Comment est-ce que, de par ta connaissance, tu penses qu'on peut diagnostiquer cet autisme haut niveau à partir d'autres
Oui,
symptômes, par
c'est
exemple
ça.
la
Les
dépression? Quelles sont les données qu'on
symptômes
va
de l'autisme
utiliser
d'Asperger
pour l'IA?
sont très différents entre la fille et le garçon. Et en fait, les diagnostics cliniques, les symptômes cliniques qui sont connus, qui sont diagnostiqués, sont ceux du garçon et pas ceux de la fille, de la jeune fille ou de la femme même, hein, parce que du coup, on se retrouve avec des femmes qui ont un autisme d'Asperger adulte non diagnostiqué, ce qui est beaucoup plus rare chez les garçons parce que leurs symptômes,
Diagnostic.
atypies qu'ils peuvent présenter, l'expression également est plus marquée, plus évidente.
Leur
Là
expression.
où, comme tu le disais très bien, la petite fille va mettre toute son intelligence, parce que ce sont des personnes très intelligentes, à dissimuler et à se donner un aspect de normalité dans leurs relations, dans leur centre d'intérêt. Elles ont aussi des. Voilà, elles essaient de s'intégrer et de cacher, elles s'épuisent, hein, physiquement,
Pour s'intégrer.
intellectuellement, mentalement, à dissimuler leurs symptômes, mais en société, c'est très peu visible. Et donc, c'est extrêmement piégeux, puisque du coup, les petites filles ne sont pas diagnostiquées, les garçons le sont plus facilement. Et si on entraîne des algorithmes à détecter, parce que je pense que le diagnostic était en déficit dans les deux cas, c'est très intéressant d'avoir des algorithmes. J'avais vu un projet où, à partir de séquences vidéo, ça permettait de voir voilà, certaines atypies de comportement et les analyser automatiquement pour essayer d'accompagner le pédopsychiatre ou le psychiatre dans son diagnostic. Mais si on fait ces vidéos sur 90% de petits garçons et les 10% de filles qui ont été diagnostiquées parce qu'elles avaient des symptômes moins évidents, on oublie une grande partie des filles et des femmes qui ont réussi à cacher leurs symptômes et qui sont passées au-delà des radars. Donc il faut vraiment sensibiliser, en fait. Sensibiliser, on sait, mais depuis assez peu, en fait, que finalement, on disait l'autisme Asperger, c'est, je ne sais pas, je dis un peu au hasard, mais 10 garçons ou une fille, en fait, non, c'est probablement 10 garçons pour 10 filles, sauf que les filles ne sont pas diagnostiquées. Donc, il faut faire, un, chez les médecins, cet effort de sensibilisation pour dépister les jeunes filles, les diagnostiquer, et ensuite, quand on passera au modèle d'IA qui peuvent aider par l'analyse de séquences vidéo, eh bien, attention à créer des bases de données assez équilibré, voire même si les symptômes sont différents, une base de données filles, une base de données garçons, pour avoir deux modèles, hein, ce qui n'est pas aberrant, un modèle adapté à chacun des sexes. Donc, je pense qu'avant tout, c'est la sensibilisation, hein, c'est déjà sensibiliser, mieux diagnostiquer, et une fois qu'on aura ça, qu'on aura mieux diagnostiqué l'ensemble des spectres d'Asperger chez les petites filles, on pourra faire nos algorithmes. Mais attention à ne pas biaiser, de ne pas reproduire tout de suite nos biais de diagnostic et nos biais humains.
Alors, je comprends l'idée d'utiliser des vidéos pour pouvoir justement avoir l'IA qui analyse à la fois sur le plan de l'image le comportement, mais aussi la dimension sonore, parce qu'il y a certainement dans la façon de s'exprimer des éléments notables. Mais je me pose la question, comment est-ce qu'on arrive en fait à enregistrer ce genre de séance? Est-ce que c'est à la famille de donner le consentement? Est-ce que c'est le patient?
Oui,
Comment
alors
ça se
c'est
passe?
extrêmement encadré, évidemment, pour des mineurs, si c'est des enfants, pour les mineurs, il y a le consentement de la famille. Je ne fais pas de pédiatrie, donc je ne suis pas expert sur les consentements des
Oui.
enfants, mais c'est d'autres. Enfin, je connais chez adultes où c'est déjà très réglementé, avec une information claire, éclairée, un consentement.
Merci pour toutes ces précisions. Je pense que ça peut aider notre audience justement à être mieux éclairée sur le parcours médical et aussi comment l'IA pourrait servir de révélateur de biais. Tu parlais de sensibilisation et c'est vrai que lorsque j'ai entendu ce documentaire d'Arte, à l'heure où on veut gommer les différences pour éviter les discriminations entre hommes et femmes, bah, la médecine tend à nous rappeler que finalement le modèle du corps de la femme n'est pas une copie de l'homme. Donc, on était bien dans une vision masculine qui a prédominé pendant des siècles. Et est-ce que tu penses que les cours de sensibilisation aux enjeux de l'IA pour les médecins, comme ton diplôme universitaire, celui que tu as créé pour l'Université Côte d'Azur, pourraient contribuer à l'évolution de la pratique de la médecine en général, ouvrir les yeux sur les biais humains pour corriger au mieux nos biais
Oui, je pense que
algorithmiques?
l'IA, justement, comme elle amplifie les biais, c'est vrai que c'est un très bon cas d'usage pour parler, voilà, des biais en médecine, des risques qu'ils engendrent et ouvrir les yeux. Parce que finalement, par exemple, moi, c'est vrai que je me suis rendu compte par les biais de l'IA qu'en fait, voilà, avec l'infarctus, un exemple dont on a cité, que ce que j'ai appris quand j'étais étudiant en médecine, j'avais un biais d'apprentissage puisqu'on je n'apprenais que les symptômes de l'homme et pas ceux de la femme. Donc, je pense qu'en IA, c'est très, comme l'IA arrive en médecine, on l'utilise, il faut sensibiliser les médecins au risque aussi de l'IA, au biais, pour avoir ce recul, comprendre, notre garantie humaine, elle est là aussi pour critiquer l'IA. Finalement, les biais, on en parle aujourd'hui beaucoup plus par ces algorithmes d'IA qui les amplifient. C'est une vraie prise de conscience qui peut bénéficier globalement à l'ensemble de la prise en charge médicale.
Et est-ce que pour toi, l'avenir de la médecine, c'est d'avoir des médecins qui font de la data science, qui vont coder, ou est-ce que pour toi, c'est quand même plutôt des profils de matheux qui travailleront
Oui,
directement à votre
pour moi, l'avenir,
contact?
c'est le même modèle qu'on a connu avec la biologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en recherche dans le cancer, c'était beaucoup, ça a toujours été, et c'est toujours avec les biologistes. On travaille main dans la main. Il y a des biologistes qui ont leur expertise, les médecins ont leur connaissance, on travaille ensemble. Mais les médecins ont été au préalable formés à la biologie, notamment du cancer, dans nos études. Donc, on a une formation, on a un bagage, et ensuite, on collabore de manière très étroite avec des chercheurs en biologie. Et c'est comme ça que je vois les choses pour l'IA. C'est-à-dire qu'on va collaborer avec, de manière étroite, avec des mathématiciens. Et Dieu sait que les maths, les étudiants en médecine, généralement, on n'en a pas fait depuis la terminale, c'est loin et on n'en refait pas du tout pendant nos études de médecine. Donc, il y a vraiment besoin d'intégrer cette formation, ce bagage minimal dans les études de médecine pour pouvoir ensuite interagir avec les mathématiciens. Et évidemment, il y a des médecins hein, qui s'y mettent, qui codent un peu, qui font des choses intéressantes. Mais enfin, le vrai potentiel de l'IA, ce sont les professionnels faire. On a des mathématiciens qui connaissent par cœur leurs algorithmes, leurs performances, leurs limites, les manières de les optimiser. Nous, on connaît nos patients et ce sont des binômes. Moi, je crois beaucoup à la collaboration, au binôme, à l'interdisciplinaire. On va beaucoup plus loin à deux. Donc, oui, de la collaboration, mais de la formation des médecins avant. Et de la formation des mathématiciens à la médecine aussi.
Effectivement, je trouve que on a besoin, nous aussi, de mieux comprendre l'environnement médical aussi dans lequel vous travaillez, parce qu'un médecin, ce n'est pas simplement un humain derrière sa console, c'est quelqu'un qui est intégré dans tout un système, et c'est nécessaire que de l'extérieur, on
On
comprenne
le voit
bien le
beaucoup, hein,
cheminement
je trouve, sur les data
et
scientists,
votre environnement.
ceux qui travaillent à distance sur des données, qui ne connaissent pas bien, qui sont ouvertes, disponibles, mais qui ne sont pas à l'interface de médecins, qui ratent énormément de choses par rapport aux data scientists qui travaillent au contact du médecin. Et je pense que tous ceux qui ont fait ça voient à quel point c'est enrichissant ce binôme. Donc c'est vrai que ce message, il est vraiment aussi sur les
Tout à
data
fait.
scientists de frottez-vous aux médecins. C'est des fois les retours peuvent être un peu durs parce que mais ça sert à rien, mais comment? Mais en fait c'est comme ça, c'est en remettant en cause et en défendant en fait chacun son point de vue et en convergeant qu'on va arriver à une solution vraiment utile aux patients et performante.
Effectivement, et je pense que là, ça touche du doigt peut-être une problématique autour de la recherche académique, en tout cas en ce qui concerne l'informatique. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a quelques bases de données publiques qui paraissent intéressantes pour faire des challenges, pour tester nos performances en termes d'IA, mais finalement, on s'aperçoit qu'elles n'ont pas toujours une pertinence clinique. Pour faire une analogie avec mon domaine, encore une fois, on avait une base de données qui avait servi à un challenge où on avait des nodules identifiés avec une évaluation radiologique. Donc, c'est-à-dire que le radiologue avait estimé à partir d'une grille le possible caractère malin ou bénin du nodule. Et on avait la possibilité d'avoir une base de données moins structurée, moins propre, mais beaucoup plus riche en termes d'apport clinique, où on avait véritablement la donnée tissulaire, où on avait la vérité terrain du malin ou bénin. Et finalement, c'est vrai que c'est sympathique de pouvoir faire des challenges, de se comparer entre nous, mais si la vérité qui est derrière n'est qu'un biais humain d'interprétation, c'est pas la même chose que de l'apprendre à partir de la vérité
Tout à
terrain
fait, tout à
tissulaire.
fait. Et ça, c'est vrai que ça, on le voit qu'avec c'est la réalité clinique aussi et les challenges, c'est bien pour tester différents modèles, comparer leurs performances, mais quand on va voir l'utilité et l'intérêt clinique, ben on veut prédire la vérité terrain qui, en effet, c'est la natte, c'est l'histologie, c'est le tissu.
Merci beaucoup Olivier, en tout cas pour cette vision très complète à l'interface entre la médecine et l'intelligence artificielle. Et avant de terminer, est-ce que tu aurais un livre ou un film à nous conseiller pour
Oui,
illustrer un enjeu de l'IA?
un film, alors pas tout récent, 2002,
Ouais.
Minority Report. C'est pas de l'IA
Ah oui.
exactement au sens même, mais il y a tous les enjeux de l'IA qui sont dedans. C'est vraiment un film futuriste hein, avec de l'humain augmenté, de la prédiction, de la vidéosurveillance. Enfin, on retrouve en fait, c'est extrêmement visionnaire. Beaucoup de technologies qui inenvisageables à l'époque qui existent aujourd'hui. On n'a pas exactement d'IA, mais on a quand même de la prédiction. Et l'impact, en fait, si on regarde aujourd'hui nos yeux avec l'impact d'un diagnostic ou d'une prédiction fait d'une manière qu'on considère une technologie extrêmement fiable, à tel point qu'en fait, on n'est plus capable de la remettre en cause et qu'on se dit, bon, cette technologie est tellement fiable que j'accepte de revenir sur des droits humains fondamentaux, comme la liberté, parce que la technologie est fiable et qu'on peut lui faire confiance. Eh bien, c'est une catastrophe dans Minority Report et ce sera une catastrophe si on a une confiance aveugle dans l'IA. Et donc, on peut revoir ce film en pensant justement à voilà, les risques potentiels de l'IA. L'IA, c'est vraiment une application extraordinaire en médecine, mais il y a aussi des risques et donc il faut toujours garder du recul et laisser la garantie humaine, laisser l'humain au centre de tout. Et donc, c'est une belle illustration, je trouve, de tout ça. Merci,
Eh bien,
Stéphanie.
merci Olivier. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com/ia-et. IA-ET-genre-en-santé sans accent. Est-ce que cet épisode vous a plu? Dites-le nous en commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix, sur LinkedIn et même sur l'onglet Contact de notre site horizon-ia.com. Et avant de vous quitter, je vous laisse méditer une citation de Martin Luther King, connu pour son discours emblématique I have a dream. De toutes les formes d'inégalité, l'injustice en matière de soins de santé est la plus choquante et la plus inhumaine. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.